Oui, bonjour, ici Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Alors, en ce vendredi 5 mai 2023, je poursuis la lecture de mon livre intitulé « La gentillesse dans le couple », coécrit avec Joanne Côté. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes au chapitre qui s'intitule justement bien « La gentillesse sexuelle dans le couple ». Et puis, alors, je commence tout de suite. En fait, à bien y réfléchir, c'est la gentillesse qui explique tout en matière de satisfaction sexuelle. Les recherches entérinent cette position. Une corrélation étroite existe entre la satisfaction du lien amoureux et la satisfaction sexuelle. En effet, l'attraction sexuelle est maintenue à la condition que la relation soit gratifiante. La gentillesse prime surtout, au fond, en matière de sexualité, quand la relation perdure. La tension sexuelle la plus fréquente dans les couples s'exprime par la différence entre la fréquence souhaitée des relations sexuelles et la fréquence réelle. Le désir de l'un peut faire enrager l'autre. La plupart du temps, c'est l'homme qui désire plus. Les recherches menées partout dans le monde en arrivent toujours à la constatation qu'en général, les femmes sont moins intéressées à la sexualité et ce, en tenant compte de toutes les mesures possibles du désir sexuel, c'est-à-dire la fréquence des pensées sexuelles, la fréquence du désir d'avoir une relation sexuelle, la fréquence de la masturbation, le nombre de partenaires sexuels, l'utilisation de matériel érotique, la rapidité de l'initiative sexuelle, la dose de communication requise pour passer à l'acte, etc. Alors, on peut voir que ce que je viens de citer est appuyé par Basson, en 2007, et Leblum et Rosen en 1988. Alors, analysant des recherches sur le sujet, Baumeister et Tiss en 2001 ont conclu que l'homme moyen, qu'il soit célibataire ou marié, ne fait jamais l'amour autant qu'il le désire, contrairement à la femme. C'est pourquoi ils ont intitulé un chapitre de leur livre « La tragédie du désir sexuel masculin » pour bien mettre ce problème en relief. Voici un exemple du genre de recherche sur cette question. Kontula, en 2016, rapporte 5 études nationales faites en Finlande de 1971 à 2015 avec plus de 10 000 participants, hommes et femmes. D'après ces recherches, 50% des hommes sentaient du désir sexuel substantiellement plus fréquemment que ce qu'ils pouvaient vivre en réalité, alors que seulement 20% des femmes vivaient une telle frustration. On retrouve cette sorte de résultat partout sur la planète. Ce n'est donc pas par hasard si la raison la plus fréquente qui amène les femmes en thérapie sexuelle est le manque d'intérêt dans la sexualité, manque qui crée de la détresse personnelle et met de la tension dans le couple. La baisse du désir sexuel est actuellement reconnue comme le dysfonctionnement sexuel le plus fréquent, représentant de 40% à 65% des troubles diagnostiqués. La gentillesse serait donc de composer avec cette différence fondamentale en trouvant des compromis. Mais est-ce que les femmes sont à ce point moins intéressées à la sexualité que les hommes? Il y a du vrai dans cette conception des choses. Dans une recherche citée par Brotteau et Luria en 2014, même les femmes qui rapportaient un haut degré d'excitation sexuelle avaient en majorité, 85% d'entre elles, avouait, c'est-à-dire avouait qu'en majorité, qu'elle s'engageait dans une relation sexuelle, du moins à l'occasion, sans désir sexuel, mais que le désir s'installait une fois que la relation sexuelle progressait. Je vais relire ma phrase parce qu'elle est un peu lourde et puis elle est très importante. Donc, ce que je reprends, dans une recherche citée par Brotteau et Luria, même les femmes qui rapportaient un haut degré d'excitation sexuelle avouaient en grande majorité, c'est-à-dire à 85%, elles avouaient qu'elles s'engageaient dans une relation sexuelle, du moins à l'occasion, sans désir sexuel, mais que le désir s'installait une fois que la relation sexuelle progressait. Dans notre pratique clinique, Joanne Côté et moi, nous entendons cela souvent. Le désir féminin est alors exprimé davantage par la réponse à une invitation de l'amoureux que par l'initiative de la femme. Cette conception peut aider des couples à ne pas décoder défavorablement l'attitude de la femme si elle a moins de désir. En effet, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle aime moins son amoureux. Cette perspective est susceptible de soulager les couples inquiets et de favoriser le rapprochement. C'est une hypothèse bienveillante pour aider les femmes et leurs amoureux à nuancer le sens qui est donné au différentiel du désir vécu dans le couple. Avec cette hypothèse, les auteurs sont de bonne foi et cherchent à améliorer le sort des femmes et des couples et non à, bien sûr, et non à les dénigrer. Toutefois, ceci n'empêche pas une proportion significative de femmes d'être plus sexuelles que la majorité des hommes. Cela est plus fréquent chez les couples âgés, mais nous avons rencontré en entrevue des jeunes hommes dans la vingtaine qui se font tirer l'oreille par leur conjointe pour avoir des relations sexuelles. La plupart du temps, toutefois, ce n'est pas la libido qui manque. C'est l'animosité qui étouffe le désir ressenti en rapport avec la conjointe. Ces hommes jeunes se masturbent allègrement en pensant à d'autres femmes. De toute façon, pour se consoler, il est bon de savoir qu'en réalité, la fréquence désirée des relations sexuelles par chacun des conjoints d'un couple donné est rarement identique. L'un désire plus de sexualité que l'autre dans la grande majorité des couples. Et parfois, nous pensons que la moindre ardeur de l'un fait peut-être savourer davantage. Ouais, excusez, je relis ma phrase là. Et parfois, nous pensons que la moindre ardeur de l'un fait peut-être savourer davantage l'offrandre le moment venu. Autrement, ce qui aurait été trop aisément acquis aurait eu moins de valeur. C'est comme si on se disait, je délecte ce plaisir que j'ai tant désiré. Toutefois, ceci est vrai seulement si l'attente n'est pas trop longue. Au-delà des nombreuses variables individuelles, culturelles, sociales, contextuelles, éducationnelles, biologiques et médicales relevées dans la littérature scientifique pour expliquer l'intensité du désir sexuel d'une personne, on retrouve inévitablement la transaction que vit chaque couple et qui doit aboutir à un compromis. Celui-ci est nécessairement affecté par la qualité relationnelle. Autrement dit, quelles que soient les raisons qui peuvent affecter l'intensité du désir sexuel d'un conjoint, le couple doit trouver sa voie. Et quand la transaction échoue, cet échec s'explique souvent par une insatisfaction de la relation amoureuse. Et celle-ci trouve souvent son origine dans les attitudes déplorables des conjoints. Ce n'est pas un cliché de dire qu'en général, la femme est scandalisée si son amoureux est plus intéressé au plaisir sexuel qu'à sa personne, et que l'homme, au contraire, est frustré s'il ne sent pas l'attraction purement sexuelle qu'il inspire à son amoureuse. D'après nous, si des hommes valorisent outre mesure la fellation, C'est pour s'assurer que leur amoureuse se consacre activement à leur plaisir sexuel plutôt qu'à la romance. Et si des femmes exigent de longues caresses préliminaires, c'est pour s'assurer de l'affection de leur amoureux. Le désir sexuel est central. En matière de vie sexuelle, tout transige par lui. Mais le sens du désir est tellement grave qu'on le nie. Même les sexologues, auteurs, chercheurs et cliniciens ont tendance à jouer à l'autruche. Nous en sommes venus à penser que la plupart des dysfonctions sexuelles sont énormément plus reliées au désir qu'on le reconnaît dans les textes de sexologie. Même qu'au contraire, l'utilisation des différents diagnostics et la médicalisation des malaises sexuels servent trop souvent à nier inconsciemment l'essentiel du problème, c'est-à-dire le tourment relié au désir. Ainsi, on a tendance à déconnecter le désir des problèmes érectiles. Pourtant, une recherche faite sur une population d'hommes québécois de 64 ans en moyenne a permis de découvrir qu'il existe un lien entre le désir sexuel et la capacité érectile. Plus la capacité érectile était adéquate, plus le désir sexuel était élevé, selon Trudel et Fréchette en 2008. Dans le même sens, nous retrouvons dans Brotteau et Luria en 2014 les informations suivantes. Bien que le manque de désir sexuel vécu pendant une vie complète soit rare chez les hommes, le nombre d'hommes rapportant des épisodes de faible désir serait substantiel. Dans plusieurs enquêtes, c'est la plainte numéro un des hommes concernant leur sexualité, surtout chez les hommes âgés. La prévalence du faible désir sexuel masculin toucherait entre 15 et 25% des hommes. Or, le manque de désir sexuel des hommes est facilement camouflé sous les difficultés érectiles. Remarquez en passant que les supposées difficultés érectiles d'un homme peuvent servir à camoufler une autre réalité. La vie sexuelle de cet homme est peut-être complétée et peut-être comblée autrement par la masturbation, l'infidélité ou le visionnement de vidéos érotiques sur Internet. Malheureusement, les hommes en général, et les chercheurs aussi, s'intéressent bien plus à la dysfonction érectile qu'au faible désir masculin. Il y a 30 fois plus d'articles scientifiques sur la dysfonction érectile que sur les problèmes du désir masculin. Pourtant, quoi qu'on en dise, la faille de l'érection est souvent la conséquence du faible désir. Dans une recherche spécifique, le manque de pensée érotique durant la relation sexuelle était la variable la plus forte pour prédire la faiblesse du désir sexuel masculin. Brotteau et Luria en 2014 déplorent donc que l'accent sur l'excitation sexuelle physiologique ait aveuglé les chercheurs, les cliniciens et le public au point de ne plus voir que le désir est une partie importante de ce qui arrive avec l'érection. Le désir est plus insaisissable que l'érection et plus complexe avec ses dimensions biologiques, psychologiques, relationnelles et socioculturelles. Du côté des femmes, nous avons été impressionnés, Joanne Côté et moi, d'apprendre que la majorité de celles qui éprouvent une difficulté sexuelle sous quelque forme que ce soit, c'est-à-dire manque de désir, excitation sexuelle inadéquate, orgasme absent ou difficile, douleur, en attribue la cause au faible désir sexuel. Je reprends ma phrase encore. Du côté des femmes, nous avons été impressionnés d'apprendre que la majorité de celles qui éprouvent une difficulté sexuelle sous quelque forme que ce soit, en attribue la cause au faible désir sexuel. La pionnière Hélène Kaplan savait déjà en 1979 que le manque de désir sexuel était la dysfonction sexuelle la plus répandue. C'est elle qui a précisé que Le désir était la première phase d'une relation sexuelle avant l'excitation puis l'orgasme. Elle y voyait un continuum dans la défaillance sexuelle, du plus facile à traiter, l'orgasme, au plus difficile, le désir. Plus l'anxiété sexuelle est sévère et intense, écrivait-elle, plus les causes en sont sévères, et plus la difficulté arrive tôt dans la séquence du rapport sexuel, plus cela inhibe le fonctionnement sexuel. Hélène Kaplan affichait 90% de succès en traitant l'anorgasmie en 12 séances. Pour le dysfonctionnement de la phase de l'excitation sexuelle, son taux de succès se situait plus bas, entre 50 et 80% en 16 séances de thérapie. Tandis que pour les problèmes du désir, elle obtenait seulement 10 à 15% de guérison. Avec ses patientes souffrant du manque de désir, sa thérapie était donc plus longue, plus flexible, plus guidée par les principes de la psychanalyse. Elle devait y consacrer une plus grande emphase sur la prise de conscience. En plus, elle recourait à la technique de centration sur les sens et elle suggérait un coït réalisé sans attente de performance. Ces exercices, centrés sur le pur plaisir relationnel, engendraient une forte résistance chez ses clientes. C'est pourquoi elle voyait la nécessité de mettre beaucoup d'énergie sur la prise de conscience de ses patientes. Ces femmes devaient découvrir leur façon inconsciente de détruire leur excitation sexuelle et elles devaient contacter leur peur et leur colère. D'habitude, elles avaient de profondes sources d'anxiété et beaucoup de colère dirigées contre leur conjoint. Hélène Kaplan avait identifié aussi que ses clientes avaient souvent des peurs inconscientes d'avoir du succès dans la vie. Et les peurs de l'intimité étaient très répandues, et malgré tous ses efforts, Hélène Kaplan admettait qu'un retour complet du désir sexuel était exceptionnel. Quant aux hommes, Trudel et Fréchette, en 2008, tiennent le discours suivant. Les recherches démontrent que les facteurs psychologiques sont plus forts que les variables biomédicales pour expliquer la faible intensité du désir sexuel. Qu'est-ce qui se joue? Les expériences de l'enfance, incluant les abus sexuels, les messages de la famille sur la sexualité, souvent sous forme de honte. Pour la majorité des hommes, la dépression et l'anxiété interfèrent indéniablement avec leur désir. La plupart des recherches montrent que les hommes qui recherchent de l'aide pour des problèmes sexuels ont de plus hauts taux de dépression et d'anxiété. Évidemment, les facteurs relationnels reliés au manque de désir chez les hommes sont nombreux. Deux points. Le manque d'attraction pour leur partenaire, la faible satisfaction de leur relation conjugale, l'insatisfaction de la qualité de leur relation sexuelle, le manque de communication, le manque d'intimité, de la colère accumulée, de l'hostilité, le sentiment d'être dominé et contrôlé. Alors, le désir est souvent utilisé comme monnaie dans les relations mal ajustées, faisant des relations sexuelles un champ de bataille pour toutes sortes de problèmes non sexuels. Les couples qui vivent une baisse de désir sexuel présentent une adaptation conjugale générale plus faible, ont une communication plus négative, ont moins de plaisir sexuel et présentent différents problèmes dans leur fonctionnement sexuel. De toute évidence, le désir sexuel est indissociable du contexte relationnel. C'est pourquoi il nous apparaît téméraire, sinon illogique, de s'imaginer qu'avec des pilules, on peut faire des miracles en ce qui concerne le désir sexuel et le fonctionnement sexuel en général. Cynthia Graham, en 2014, rapporte une recherche faite en Finlande en 2008 sur une population de 5463 femmes. On y apprend que l'absence d'orgasme diminue avec l'âge et avec la durée d'une relation amoureuse. Et cette étude montre comment toutes les variables relationnelles sont reliées avec l'inhabilité orgasmique. Deux points. Trop peu de préliminaires. Une pauvre communication. Un conjoint plus intéressé par la sexualité que par le contact avec sa partenaire. Un conjoint incompétent, etc. Toutes ces variables affectaient l'orgasme, mais c'est la communication défaillante qui apportait le plus de détresse au sujet de la sexualité. D'ailleurs, Graham, en 2014, rapporte qu'il existe un haut degré de comorbidité entre le désordre orgasmique féminin et le manque d'excitation sexuelle, la sécheresse vaginale et le désir sexuel. On devrait reconsidérer la conception des problèmes orgasmiques non pas comme une catégorie distincte séparée, mais plus comme un problème global ou un problème relié à l'excitation sexuelle. Ceci rejoint notre conception concernant les diverses dysfonctions sexuelles. Ces dernières sont bien plus holistiques qu'on les présente. On s'est trop inspiré du modèle médical qui dissèque chaque symptôme en oubliant l'entièreté de la personne. Selon nous, les divers troubles du fonctionnement sexuel ont bien plus à voir avec le fonctionnement d'un individu, sa personnalité et la qualité de ses relations interpersonnelles que tout autre facteur. Si Julie, par exemple, a de la difficulté avec ses orgasmes, elle peut être assistée pour découvrir des trucs, mais elle sera encore mieux aidée si on se préoccupe aussi de sa façon globale de se positionner dans la vie. Autrement dit, comment se fait-il qu'elle n'applique pas spontanément les recettes qui marchent? Voilà la vraie question. Excusez-moi. Allant dans ce sens, Cynthia Graham, en 2014, déplore l'accent actuel de la recherche sur les traitements pharmaceutiques au détriment des approches psychologiques concernant le fonctionnement sexuel et féminin et masculin. En passant, elle rapporte aussi que les antidépresseurs SSRI sont reconnus pour retarder l'orgasme féminin ou l'inhiber, affectant de 30 à 60% des femmes qui en consomment. Et ceci serait difficile à renverser, même en changeant de médication. Alors voilà pour cet épisode. Le prochain épisode suivra la logique de ce qu'on vient d'aborder. Le titre sera « Gentillesse plutôt que médicament ». Alors donc, c'était Psycho Balado une fois de plus. C'était le 167e épisode avec Yves Dalpé, psychologue. N'hésitez pas à consulter mon site internet si vous voulez plus de renseignements sur ce que je suis, sur qui je suis, sur mes livres et mes services, en allant à www.dalpecote.com. Alors sur ce, je souhaite un bon 2 semaines à tous mes auditeurs et au plaisir de recommuniquer avec vous.